Dans ce podcast, nous allons parler d'un univers à la croisée de l'artisanat, de la création et du goût, le chocolat. Derrière ce produit en apparence familier se cachent en réalité des enjeux passionnants. Comment transforme-t-on une matière première en un objet de désir ? Le luxe alimentaire répond-il au même code que les autres secteurs du luxe ? Comment une maison indépendante peut-elle rivaliser avec de grands groupes ou de grandes enseignes mondialisées ? Ou encore, comment éduque-t-on le goût d'un client devenu de plus en plus exigeant ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Marcolini, grand chocolatier, entrepreneur, créateur, évidemment figure incontournable de la haute chocolaterie. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours, sa manière de penser la création, mais aussi sur les défis d'une maison indépendante dans un secteur où l'émotion, l'image et la qualité doivent sans cesse se réinventer. Bonjour à tous, je suis Juliette Weiss et bienvenue dans le podcast Business Class. Bonjour.
Bonjour Juliette, merci à vous de m'avoir invité.
Merci Pierre. Alors tout de suite, de prime abord, quand on reçoit quelqu'un dans ce podcast, c'est parce qu'il a un parcours particulier. Vous avez décidé de consacrer votre vie à la gourmandise, au chocolat. Ah, c'est quand même un choix plutôt singulier, en même temps intriguant. Pourquoi avoir choisi le chocolat, Pierre ? Vous auriez pu faire tous les métiers du monde, vous avez choisi celui-ci.
C'est vrai, j'aurais pu faire tous les métiers du monde, mais c'est celui-ci qui me passionne. Alors, petite anecdote, quand à l'âge de 9-10 ans, vous commencez à échanger vos jouets pour des desserts, il y a deux solutions, Juliette. La première, c'est soit d'aller voir un psy, ou soit d'en faire une profession. Je pense que j'ai choisi plutôt la deuxième voie. Et quelques années plus tard, voire beaucoup d'années plus tard, puisque j'ai quand même un certain âge, je ne regrette en rien ce choix. Je pense que c'est un choix de cœur, c'est un choix de passion. Alors, assez jeune, il faut se l'accorder, quand à 10, 12, 14 ans, vous commencez à découvrir votre voie, avec quand même cette idée de, en miroir de cela, Marcolini, c'est d'origine italienne. On est quand même dans une phase d'immigration juste après la Seconde Guerre mondiale, ma maman qui vient d'Italie. Un milieu social qui n'était pas forcément très favorable, mais aussi le fait que quand vous annoncez à votre mère, à l'âge de 14 ans, que vous voulez devenir pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, c'est ce qu'on appelle en tout cas en Belgique l'enseignement technique et professionnel. Et à l'époque, en tout cas, c'était considéré comme l'enseignement de la dernière chance.
Oui, absolument.
Et donc, j'ai la réaction de maman qui me regarde et qui me dit « Tu choisis un métier facile. » Mais il faut remettre ça dans un contexte social. Et je comprends tout à fait cette phrase. Et c'est vrai que ça m'a un peu déstabilisé. Et puis, je suis allé dans une grande école qui se trouve à Bruxelles, une école internationale, qui s'appelle le CERIA. Et vous savez, cette image que... Quand vous arrivez quelque part, vous déposez vos bagages, vous savez que vous allez être bien, et les premiers cours de pratique de chocolaterie et de pâtisserie m'ont tout de suite convaincu que j'étais à la bonne place.
Alors, on parle souvent dans ces métiers, comme dans d'autres, de vocation. Alors, c'est un peu galvaudé comme terme, parce que est-ce que vraiment vous aviez cette vocation, ou est-ce que vous êtes dit, c'est quelque chose qui peut fonctionner, c'est une idée de business, je vois plus loin que la simple idée de passion. Est-ce que cette idée de vocation, elle fait sens aussi pour le métier de chocolatier ? Est-ce qu'elle faisait sens quand vous avez commencé ?
Totalement, je pense que c'est totalement la vocation qui m'a poussé, pas du tout, j'ai pas fait d'école de commerce en se disant, ça y est, je vais faire un business plan, quelle est aujourd'hui la question qu'on se pose toujours, est-ce que je réponds à un besoin de marché ? C'était pas du tout ça, c'était plutôt le fait de dire j'ai envie de faire un chocolat qui me ressemble, j'ai envie de faire un chocolat en fonction de ma sensibilité, un chocolat en fonction de mes valeurs, mais surtout avec toujours ce regard et cette forme d'émerveillement. Je pense que ce qui m'a toujours poussé dans mon métier, c'est de m'intéresser à ce qui se passait, c'est de remettre en question... qui parfois déstabilise, je vous fais un petit aveu, déstabilise un peu mes équipes. C'est pas pour rien que dans le pôle recherche et développement chez nous, il est marqué « Les rêves de Pierre, c'est déjà le début de nos cauchemars », parce que chaque fois, vous arrivez avec un changement en disant « La collection d'aujourd'hui, on va peut-être la changer, c'est peut-être pas ça ». Et je m'interroge, et c'est vrai que cette ouverture d'esprit, j'aime beaucoup la phrase de Nicolas Bouvier, qui est quand même un des grands explorateurs, qui disait « Est-ce que l'émerveillement est une question d'âge ou une question d'état d'esprit ?» Et ça a vraiment été une question d'état d'esprit. Et cet émerveillement-là de me dire « Tiens, est-ce qu'on peut faire un chocolat différemment ? Est-ce qu'on peut faire un chocolat où on pousse les curseurs un peu plus loin ?» Et pour preuve, pour que les auditeurs comprennent, aujourd'hui, le monde du chocolat s'articule sur deux choses. La première, on a les pays planteurs qui vendent leurs fèves de cacao à des grands industriels. On les connaît tous, que ce soit Valrhona, Belgola, Lade, Calbaut, etc., qui vont vendre ce chocolat en pastilles, et puis les chocolatiers, ce que je considère un peu plutôt comme des confiseurs. Mais voilà, c'est une question de philosophie. C'est vrai qu'effectivement, eux vont travailler le chocolat. Et quand je suis rentré dans la profession en 95, et quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, et d'avoir visité quelques anciennes chocolateries, et dont une en France qui est la Maison Bernachon, je me suis rendu compte qu'en fait le métier pouvait aller plus loin que ça, revenir à l'origine du métier de chocolatier. Et quand vous regardez la définition du dictionnaire, le chocolatier c'est celui qui fabrique son chocolat. Et là, c'est vraiment tout un univers qui s'offre à vous, parce qu'effectivement, c'est le fameux mouvement bean to bar, qui veut dire de la fève à la tablette. Et donc, ça veut dire quoi, pour que les auditeurs comprennent? C'est-à-dire de repartir, ce que faisaient les anciens, c'est de repartir à partir de la fève de cacao. La transformation de cette fève de cacao vers, effectivement, cette pâte de chocolat, qu'on appelle communément aujourd'hui la couverture de chocolat. Et les anciens faisaient ça au départ. Et c'est vrai que je suis reparti, j'ai repris mon bâton de pèlerin, et en 2000, je me suis dit, j'ai envie de repartir à partir de cette fève de cacao. Et c'est un peu comme quand vous avez fait le tour d'une pièce, la connaissance que vous avez, c'est-à-dire réaliser des ganaches, réaliser effectivement des pralinés, tout ça, évidemment, vous avez cette maîtrise, mais commencer à découvrir qu'en fait, il y a encore une autre bibliothèque qui est celle de la connaissance de la fève de cacao. Si je dis aux auditeurs, Forastero, Trinitario, Sudelago, Carenero, Puerto Cabello, etc. Ce sont toutes des types de fèves de cacao qui sont différentes. Chacune avec une spécificité différente, chacune effectivement avec une origine différente, chacune évidemment qui va apporter des saveurs, qu'elles soient soit des notes fruitées, soit des notes acidulées, soit des notes un petit peu herbacées. Tout ça aujourd'hui, on se rend compte dans le monde du chocolat. Et c'est pour ça qu'on pourrait appeler, est-ce que c'est du chocolat haute couture, est-ce que c'est du chocolat de luxe? Je pense que c'est plutôt, si vous le permettez Juliette, c'est plutôt des chocolats de dégustation. Je pense qu'aujourd'hui, on a deux lignes qui commencent à émerger. On a la première qui va être un chocolat, ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça du candy bar, donc c'est du chocolat un peu tout venant et sur lequel on a des notes un peu chocolatées. Et puis de l'autre côté, effectivement, un chocolat où on prend le temps, le chocolat où on prend le temps de la dégustation, on découvre les saveurs, pas en fonction d'un pourcentage de cacao, mais en fonction d'une origine, en fonction d'un terroir, en fonction d'une plantation, en fonction du respect immense que j'ai vis-à-vis de ces planteurs qui font un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, on est à la croisée de ces chemins. Alors pourquoi la croisée de ces chemins aujourd'hui? Parce que la mondialisation, même si parfois elle peut avoir des effets négatifs, elle a aussi des effets positifs. Elle nous permet de se parler, elle permet de communiquer, elle permet effectivement...
De s'éduquer aussi, est-ce que les gens ont besoin de s'éduquer au chocolat? Parce que là, on parlait tout à l'heure de terroir, on en parle, c'est un peu comme du vin, je veux dire, il y a toute une palette de connaissances sur le chocolat. Est-ce que le public a besoin d'être éduqué aussi là-dessus? Est-ce que c'est important ou plutôt de la curiosité plutôt que de l'éducation?
Mais je pense que c'est l'éducation, je pense que la génération d'aujourd'hui, les nouvelles générations ont plutôt tendance à dire « on est prêt à payer ». Mais on veut de la transparence. Ah. On est prêt à payer pour comprendre c'est quoi le process. À partir du moment où on part sur des rémunérations, et je pense que c'est ça, ceux qui font du bean to bar aujourd'hui, eh bien, la première valeur de cela, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, de cette transparence, mais d'éducation en se disant, voilà aujourd'hui, les fèves de cacao, elles ont aussi une certaine signature. On est dans le monde végétal. Il y a la même révolution dans le monde du café, il y a la même révolution dans le monde du thé, il y a la même révolution dans le monde du vin, et je pense que la révolution ou l'évolution, parce que les révolutions j'ai toujours un peu peur, c'est vrai qu'on est en France, il faut faire attention, je vous regarde donc, et en même temps je me dis, donc évolution, évolution, donc c'est l'évolution effectivement assez naturelle de ce qui se passe au niveau du chocolat et de faire comprendre aujourd'hui à nos clients que le chocolat, ben, comme c'est le monde végétal, il y a effectivement différents types de fèves, mais il y a aussi une rémunération la plus juste vis-à-vis du planteur. On a vu tous les cours boursiers possibles, imaginables. Alors en gros, sur les 10 dernières années, on était plutôt à 2 500 $ la tonne, alors qu'il faudrait au minimum payer 3 500 $ à un planteur. Le cours boursier a monté, mais plus par des effets de spéculation et parce qu'effectivement, on a eu des problèmes climatiques. Aujourd'hui, on a trop de cacao et donc les cours ont baissé. Mais au-delà de ça, quand je regarde mes confrères dans le Bintouba, je pense qu'il n'y en a aucun qui regarde le cours boursier. Je pense que tous regardent plutôt la qualité de la fève, et on est dans des ratios qui sont plutôt entre 5 000, et moi j'ai des fèves de cacao qui mangent jusqu'à $14 000 la tonne de cacao. Donc pour vous dire, on est 3, 4, 5 fois plus haut que le marché boursier, parce que la première chose quand vous trouvez des fèves de cacao d'exception, c'est pas le prix.
C'est comme un collectionneur, vous êtes comme un collectionneur.
Oh, mais je
le
pense
prix n'a plus d'importance, Pierre, à ce niveau-là ou...
Mais je pense que c'est surtout la relation. C'est la relation que vous avez avec le planteur. C'est lui dire, j'espère que je peux en avoir pour l'année prochaine. C'est un peu comme un cuisinier qui a un filon ou une filière avec des gens qui lui donnent des produits et des matières premières extraordinaires. Sans ça, c'est pas possible de faire un chocolat. La première chose que vous faites, c'est pas de discuter le prix. C'est de regarder la qualité, c'est de pérenniser cette filière de façon à pouvoir offrir à vos clients exactement la même chose l'année d'après, avec toujours cette variable qui est la nature. Ce qui est exceptionnel, eh bien, il faut accepter que le lendemain, ça l'est un peu moins. Et c'est cette variabilité qui fait qu'effectivement, on soit là en se disant oh, « Cette année, les fèves du Congo qui viennent dans la région du Kivu sont absolument fabuleuses et vont donner un chocolat fabuleux. » Et on doit accepter cette variabilité, comme on l'a dans le monde du vin. Si on a quelque chose qui est toujours la même chose, je pense qu'on rate un moment qui est le moment d'émotion. Il y a le moment, pour moi, d'avoir tellement voyagé à travers le monde, il y a une chose qui est assez folle avec le chocolat, c'est le côté universel du chocolat.
Absolument.
Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, alors qu'en Europe, on a cette culture du cacao, on a cette culture du chocolat depuis 3 siècles, alors que quand vous allez en Asie, eux, s'ils ne l'ont pas depuis longtemps, mais Juliette, je vous fais une confidence, on a des boutiques à Shanghai, on a des boutiques à Tokyo depuis 25 ans déjà, et il y a toujours le même phénomène. Au moment de la dégustation, le visage qui bouge, il y a ce moment d'extase presque, où les gens vous regardent en disant c'est vraiment bon.
Puisqu'en Europe, vous trouvez, Pierre, qu'il y a un plus d'extase en Asie qu'en Europe quand on goûte du chocolat, parce qu'on est moins habitué peut-être ou...
Ouais, je pense que les kikis, les enfants, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, quand je fais des dégustations avec des clients et quand je fais une conférence, j'y trouve la même passion. C'est ça qui me surprend, c'est de me dire, on n'a pas le même degré d'histoire avec cette relation du chocolat. Mais la relation à la dégustation est la même, la relation avec l'émotion est la même, et c'est pour ça que je dis que le chocolat est un produit universel. Comment est-ce qu'on peut rassembler autant de gens autour de cette gourmandise, de ce moment de partage, ou même ce moment où on a envie d'être avec soi. Il y a des gens qui ont une relation avec le chocolat qui est absolument fabuleuse.
Et alors, on en parlait, le thé, le café se premiumise, c'est un terme un peu général, mais c'est une réalité. On voit notamment dans certains établissements des tasses de café qui sont vendues pour $500, hein, puisque c'est un grand cru. Donc il y a vraiment une volonté. Est-ce que le chocolat se premiumise? Ça a toujours été un produit un peu... Mais est-ce que là, avec ce que vous me dites, on arrive à vraiment une excellence? Est-ce qu'on aura bientôt des dégustations de chocolat les yeux fermés, un peu comme le vin? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait tendre vers ça?
C'est déjà le cas. Juliette, c'est déjà le cas. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le chocolat a souffert énormément du fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'articulation entre les pays planteurs et les chocolatiers, ben, il y a au milieu de cela, il y a des industriels. Et les industriels, c'est plus facile pour eux, et je peux comprendre, hein, c'est une logique financière, c'est plus facile pour eux de vous vendre des fèves du Venezuela, des fèves de l'Équateur, des fèves du Brésil ou d'Afrique, que de commencer à aller dans le détail. Si demain matin, j'avais un coup de baguette magique et que je dois refaire le monde du vin, et que je dis, je vends juste une bouteille qui s'appelle du vin français, vous imaginez toute la richesse que l'on perdrait? Eh bien, c'est exactement la même chose quand on vous vend une fève du Venezuela. C'est plus facile de vous vendre un package. Et c'est ce qu'on vend aux artisans ou aux transformeurs, donc à la fois que ce soit les artisans ou aux industriels. On vend des tablettes où il est marqué juste Venezuela. Et aujourd'hui, avec l'arrivée effectivement de ces artisans qui veulent repartir à partir de la fève de cacao, donc ce fameux mouvement Bean to Bar, et que j'ai commencé il y a 25 ans, on m'a pris pour un fou en me disant « Mais Pierre, tout le monde s'en fout, on ne veut pas savoir, pour du moment qu'il y a un pourcentage de cacao. » Et c'est là où peut-être la différence entre le marketing et la vision, à un moment donné, pour revenir à cet esprit d'entreprendre, il y a des choses qui parfois... ne sont pas inscrits dans une étude de marché. Elles se sentent, il y a un moment donné, où vous dites, je pense que c'est cette voie-là que j'ai envie de suivre, cette voie-là qui instinctivement me guide. Et c'est ce que j'ai fait il y a 25 ans, où il n'y avait pas de matériel, ou très peu, j'ai dû aller chercher du matériel d'occasion, etc. etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, et c'est là où il y a deux voies possibles. Pendant des années, on nous a vendu des chocolats avec un pourcentage et un générique au niveau évidemment de l'origine des fèves. Et aujourd'hui, cette accessibilité à justement aller vers des petites plantations. Le dernier voyage, c'était en Inde, du côté de Tamil Nadu, donc dans le Kerala. Vous allez voir Amish, qui est une plantation qui fait 10 hectares. Ça n'intéresse personne, en tout cas pas le monde industriel. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que ce qu'il a développé, c'est une petite plantation avec une biodiversité. À côté de ça, vous allez avoir des muscadiers. Et quand vous goûtez cette fève, vous vous dites « Waouh !» Il y a quand même une note un petit peu épicée qui peut être intéressante. Quand vous avez des fèves qui viennent de la région de Kivu, quand vous avez des fèves qui viennent de la région du Sambirano, donc du côté de Madagascar, et qui sont des petites plantations... Ça nous intéresse. Et c'est là, effectivement, où il y a ce point de divergence entre, comme vous l'avez dit, un chocolat qu'on connaît, qu'on a toujours payé, peut-être parfois un peu sous-payé, je pense, quand on voit les conditions dans lesquelles vivent les planteurs. Et rappelons quand même qu'il y a 2 millions d'enfants qui travaillent dans les plantations de cacao, c'est quand même pas rien. Et il faut combattre cela. Et puis de l'autre côté, effectivement, des petites plantations qui vont intéresser le mouvement Bean to Bar. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce décrochage, comme vous l'avez dit. Alors évidemment, ça a un prix, parce qu'il faut payer convenablement les planteurs, parce qu'on produit en France ou en Belgique, et ben la main-d'œuvre, elle est là. Mais je crois qu'il y a une clientèle qui est prête justement à se laisser tenter, vous voyez ce que je veux dire, à se laisser guider vers cette nouvelle forme de dégustation.
Oui. C'était justement un peu le sujet de ma prochaine question. Est-ce que les gens sont sensibles à cette traçabilité, cette transparence? Est-ce que le fait que vous disiez « mais mon chocolat il est plus cher parce que je l'achète plus cher, parce que je travaille avec des planteurs », est-ce que ça les gens sont sensibles? Est-ce qu'il y a encore... une élite peut-être, ou est-ce que c'est quelque chose qui tend à se démocratiser?
Alors, je ne pense pas qu'elle se démocratise, je pense qu'elle, surtout, elle s'affine, elle se spécialise. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Je ne fuis pas la question, je la garde en mémoire, mais je voudrais, comme c'est, pour que les auditeurs comprennent, il y a ce mouvement Bean to Bar. Alors, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on est sustainability? Est-ce qu'on défend un commerce équitable? Est-ce qu'on défend un chocolat bio? Est-ce qu'on défend un cacao avec une biodiversité? Est-ce qu'on défend, etc. Oui, bien sûr. Mais je vous raconte mon anecdote. Je suis avec des amis, on déguste. Et vous l'avez compris, assez sensible dans le monde du vin aussi. J'imagine. Et on déguste un joli vin.
Oui.
Et je viens avec cette nouvelle tablette du chocolat du Congo. Et je leur dis, voilà, région du Kivu, un forastero, vous allez voir. Et je pars sur toutes ces vertus que vous venez de dire. Et c'est vrai qu'à un prix comme cela, il ne manquerait, manquerait plus qu'il n'y ait pas 100% pur beurre de cacao, oui. Que ce soit équitable, etc.
Oui. Un peu feuille d'or aussi.
Je dirais pas feuille d'or, mais on ne soit pas dans le bling-bling, mais dans le réel, dans l'authenticité, à 10 euros, à 11 euros, 12 euros la tablette. Et donc j'explique toute cette partie-là à mes amis qui me disent, écoute Pierre, de façon un peu crue, hein, je ne vous le cache pas, on s'en fout. Est-ce que ce chocolat, et c'est là que ça devient important aussi, est-ce que ce chocolat, Bean to Bar, est-il meilleur que les autres? Parce qu'en réalité, le client, ce qu'il a envie de savoir, heureusement, et c'est bien qu'au niveau de la vertu et au niveau, évidemment, du fait qu'il paye autant, mais, comme on dit en anglais, at the end of the day, est-ce que c'est meilleur? Eh bien oui, parce qu'il y a du caractère. Eh bien oui, parce que c'est un chocolat qui s'affirme. Eh bien oui, parce que c'est un chocolat frais. Il faut être conscient que quand on torréfie, le temps qu'on torréfie, qu'on prenne ses fèves de cacao et qu'on réalise des tablettes de chocolat, le circuit est très très court. Oui, c'est un chocolat qui vous laisse pas indifférent. Oui, c'est un chocolat qui a de la personnalité. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut être conscient. C'est-à-dire que c'est un chocolat que vous n'allez pas retrouver. Il n'y a pas un mark-up, il n'y a pas une signature, parce qu'à partir du moment où tout le monde part sur la même base de chocolat de type industriel, la partie aromatique est la même. Alors qu'ici, ce chocolat va être différent. Est-ce qu'il va être meilleur ? C'est en fonction des goûts de l'un et de l'autre. Mais c'est un chocolat qui ne vous laisse pas indifférent, qui a de la personnalité. Alors après, on peut aimer ou pas aimer, mais c'est vrai qu'effectivement, pour moi, c'est un chocolat d'auteur, c'est un chocolat signature.
Alors c'est très intéressant puisque justement, dans un marché très concurrentiel quand même du chocolat, on a beaucoup de grands noms, beaucoup d'experts, en tout cas, voilà, c'est un marché très, très, très mobile et très, très vivant. Vous parlez de différenciation comme ça, c'est-à-dire que vos tablettes sont pas forcément meilleures, mais elles racontent quelque chose, il y a un caractère, et c'est ça votre signature, c'est ça la signature Pierre Marcolini. Qu'est-ce qui fait la différence avec de votre chocolat avec les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on peut justifier son empreinte, sa signature dans un monde chocolatier assez, assez vaste?
Je pense qu'elle commence d'abord par se différencier par l'achat des fèves de cacao. Je pense que si au plus un artisan à la capacité d'amener sa valeur ajoutée et sa signature en amont par le choix des fèves, par la torréfaction. La torréfaction, c'est l'âme du chocolatier. Ah oui. C'est vraiment l'âme du chocolatier. Vous n'imaginez pas les variables qu'on peut faire en termes de torréfaction. Une torréfaction lente, une torréfaction peut-être un peu plus soutenue, un peu plus poussée, qui va griller les fèves, peut-être un peu trop les brûler. Il faut faire attention à ça. Et donc, c'est quoi la signature que... En tout cas, j'essaie d'imprimer. Et de nouveau, cette relation avec le monde du vin, qui est de dire, ah mais, ça c'est Villard, ça c'est Cuilleron, ça c'est Rayas, etc. Parce qu'on reconnaît la patte du vigneron. Et je pense que dans le futur, on va reconnaître les maisons de cette manière-là, les chocolatiers, en se disant, ah non mais ça c'est Marcolini. Ça.
Ah, oui.
Et en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire.
Sûr,
et pour moi, le mark-up, c'est... d'essayer de se rapprocher le plus possible de ce que j'ai eu comme impression lors de la visite de la plantation. Quand je suis allé du côté de Madagascar, c'est un sol rouge, c'est un sol avec un... Alors, techniquement, ce qu'on appelle un pH qui est assez élevé. Donc, c'est des notes de fruits rouges. Et donc, dans cette tablette de chocolat, moi, je veux avoir ce marqueur-là. Quand je vais aller du côté de l'Équateur, eh bien, c'est effectivement... ce qu'on appelle un 100% Arriba, donc une fève qu'on appelle le National Équateur, c'est des notes de café. Quand on va du côté de Sao Tomé-Principe, qui est l'île qui a été touchée par la grâce du cacao sur le continent africain, ça va être des notes un peu de fruits secs grillés. Tous ces éléments-là, et je ne vous ai pas parlé de pourcentage de cacao. Le pourcentage de cacao, ça vous indique juste ce qu'il y a comme sucre par après. Mais c'est pas ça qui va faire les parties aromatiques du chocolat. Je pense que c'est le choix de la fève. Et c'est là où ça devient un univers absolument inimaginable, un univers sur lequel on peut s'exprimer, un univers sur lequel je peux être créatif, un univers où effectivement... Je m'attarde beaucoup. Je vois énormément sur les réseaux sociaux, ça me fait sourire. Je vois énormément sur les réseaux sociaux pas mal de créations, mais beaucoup sur... l'intérieur d'un produit, beaucoup sur l'intérieur d'une création, que ce soit de la guimauve, ce soit des pralinés, on les voit remplir, etc. Et chaque fois, je me pose la question en me disant, il y a quand même 50% de choses qui nous échappent, et quel type de chocolat? Comment est-ce qu'il a été torréfié? Comment est-ce qu'il va s'exprimer? Comment est-ce que l'association avec un joli praliné noisette, est-ce que j'ai été prendre un chocolat du Sambirano? Est-ce que j'ai été prendre un chocolat du Brésil, de chez Joa Tavares? Hein, est-ce que je suis sur un Amelolado? Est-ce que je suis sur un Puerto Cabello? Est-ce que je suis sur un Criollo? Parce que là, c'est sur une des notes qu'on va trouver de type Chuao, avec des notes un peu féminines qui vont supporter l'intérieur de ce praliné. Tout ça, aucune explication. Et je pense que pour les gens qui font du mine-to-bar, il y a un terrain de jeu absolument incroyable de ce côté-là.
C'est très intéressant. Alors, une question assez pragmatique.
Oula.
Et oui, alors là, on sort un peu peut-être du côté technique, mais je m'entretenais avec un nez, vous savez, un créateur de parfums récemment. Ouais. Et alors, il y a toujours cette idée un petit peu que ce soit, souvent dans le luxe, quand on travaille l'artisanat, qu'on a des dons. Un nez a un don, voilà. Quelqu'un qui travaille un chocolatier, pour moi, a presque un don de goût, de senteur. Est-ce que vous protégez votre odorat, votre goût, et est-ce que vous goûtez en permanence, Pierre? Le côté très pragmatique, comment est-ce qu'on travaille son palais? Est-ce que comme un nez, vous le protégez? Est-ce que vous... Comment est-ce qu'on entraîne un peu? C'est quand même votre outil de travail, entre autres.
C'est l'outil de travail, mais je crois qu'à force de faire ce métier, puis ça fait plus d'une quarantaine d'années que je suis dans le métier, vous avez agrandi votre palais, vous avez agrandi votre bibliothèque, vous avez peaufiné celle-ci de façon effectivement à comprendre les arômes, à commencer à les associer dans votre tête. C'est vrai qu'effectivement, à force de goûter, je suis quand même à une consommation régulière de 100 grammes de chocolat par jour. Donc à la fin, évidemment, vous avez développé votre partie aromatique, ça c'est clair.
Bien sûr.
Maintenant, pour revenir sur la différence avec un nez, c'est plus une observation. Je pense que derrière l'artisan, il y a la transmission. Je crois que si on veut développer une entreprise, si on veut développer effectivement et la faire grandir, on doit transmettre les choses. Et dans cet artisanat, aujourd'hui, il y a une équipe, il y a recherche et développement, que ce soit en Belgique, que ce soit au Japon, que ce soit au Middle East. On a quelques endroits, on essaie de développer cela, on se peaufine, mais aussi ça nous permet de grandir. Ça permet aussi de mettre en place une structure où le savoir-faire, il est construit dans l'entreprise. Je pense qu'il y a dans l'entreprise, il y a aussi une philosophie de travail qui reste en place et que vous avez développée et qui permet effectivement de pouvoir grandir.
Et alors, dernière question, très pragmatique aussi, Pierre. Alors, je sais que c'est celle, en général, que mes invités n'aiment pas forcément. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est chocolatier, Pierre, et qu'on s'appelle Pierre Marcolini, et qu'on a on a une société maintenant qui est présente depuis de nombreuses années? Vous avez travaillé pour ça. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Est-ce que vous êtes un homme qui gagne bien votre vie?
Alors,
on parle business un petit peu.
On parle un peu business. Donc, aujourd'hui, on a plus de 500 collaborateurs. On a une soixantaine de boutiques. J'ai commencé dans 30 mètres carrés. Je
oui,
vous racontais un peu dans un garage.
Fait.
Et aujourd'hui, on est à 6000 mètres carrés de développé. Alors, avec le mot ambition derrière, et puis 30 ans qu'on a commencé. Alors, les gens me disent, est-ce que tu re-signes pour 30 ans? Je re-signe les yeux fermés pour 30
c'est
ans.
C'est vrai.
Oui, parce que c'est une aventure humaine, c'est une aventure de création, c'est une aventure incroyable, même en termes de business, se retrouver en Europe. Enfin, on a des boutiques en Belgique, on a des boutiques à Paris, à Londres, on est au Japon depuis 25 ans, on est en Chine, on a ouvert à Taïwan, on est en Corée, etc. Donc l'Asie... ouverture d'esprit, puis on est du côté évidemment de Middle East. Alors, est-ce que je suis riche? Je pense que je suis riche d'émotions et c'est pas une réponse sur le côté, c'est une réponse que
oui,
je pense
sûr.
Oui, bien sûr, mais évidemment on gagne sa vie, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, je pense que l'essentiel, c'est de vivre sa passion, l'essentiel. Et les choses viennent par après. Et je pense, quand vous regardez beaucoup de business, je pense que le premier moteur n'a pas été le business plan. Le premier moteur, ça a été l'envie. L'envie de faire ce qu'on veut. L'envie de se dire, vous savez, j'aime cette phrase qui dit, entre les rêves et la réalité, la seule porte qui les sépare, c'est le courage. Et c'est ce courage d'y aller, ce courage de d'avancer. Le nombre de fois où j'étais pas dans des conférences, dans des écoles, avec des jeunes, etc., et qui me posaient la question en me disant, mais est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que vous pensez vraiment que je peux lancer mon business? Je lui ai dit, vous savez, la différence avec les entrepreneurs, ils ne se posent pas la question, ils le font. Et c'est toute la différence. Et je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, je suis riche, comme je vous l'ai dit, de création, de passion, de rencontres, et beaucoup d'amis. J'aime cette phrase.
Vous avez beaucoup de chance, Pierre.
Merci à vous.
Merci de nous avoir emmenés avec vous sur les chemins du chocolat. Je vous propose d'écouter ce podcast sur toutes les plateformes d'audio, également sur BFM Business, sur notre site et sur l'application. Merci beaucoup et à très bientôt.